Je ne peux pas être compétitif si je ne protège pas mes frontières.
Bien sûr. Bah,
l'immigration est très, est très importante en France. Trop importante en France.
On est contre les gens chez nous alors que nous avons 5 millions de chômeurs, alors que nous avons 8 millions de pauvres, alors que nous avons 1,2 million de foyers qui attendent un logement social. Bon sang, occupons-nous d'abord des nôtres.
La gauche est achetée par Moscou. Par contre, la main. La droite est achetée par la fenêtre, on savait déjà ça. En plus, la gauche en plus. Voilà, merde. Un bon discours politique par deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et si possible, que les deux soient plus près possible l'un de l'autre. Française, français, voir deux choses, un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé, j'ai un bon travail. Ça va s'arranger.
Vous avez presque tous les droits. Il y a du chômage. Les gouvernements, ils profitent des gens. C'est pas nous qui ont la parole. C'est les banquiers et les politiques. Ils font rien pour nous. Ils nous enlèvent tout.
Personne ne le sait. Pourquoi ? Parce que je pense que si on connaissait ce chiffre, on serait tellement horrifié de voir que les multinationales payent si peu d'impôts.
On les appelle les indignés. Le mouvement a débuté en Espagne. Depuis quelques jours, une cinquantaine de jeunes sont rassemblés pacifiquement place de la Comédie. Plusieurs policiers sont intervenus pour dégager le campement improvisé.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, place Satonnet. C'est le Canu Info du vendredi, qu'on soit le 1er mai ou pas, on est toujours là, pour nous c'est jamais férié, on travaille tout le temps pour vous donner la meilleure info de qualité. Donc c'est le Canu Info de Pierre,
Raphaël et Ariane.
Et voilà, on est tous les trois présents pour une heure d'émission. Alors du coup, au programme de ce soir... On va vous parler du 1er mai, le jour de la fête du travail. On a deux, trois petites choses à vous dire concernant cette date, des petites histoires à vous raconter concernant cette journée du 1er mai, car c'est une date pleine de signification en fait. Ensuite, on parlera du rassemblement Front National qui a lieu aujourd'hui justement pour le 1er mai. On parlera ensuite de l'armée qui va être dotée de 3,8 milliards d'euros en plus, apparemment. Donc voilà, deux infos sur le Front National, sur l'armée. Ensuite, on va parler d'une nouvelle loi du gouvernement. On peut dire que c'est un peu une loi Macron 2 qui va encore réduire les droits des travailleurs. On va parler de la loi sur le renseignement qui va être votée très prochainement, qui a été proposée, la loi sur le renseignement et de une loi qui contrôle les usagers d'Internet. Et on va notamment parler des autres lois qui contrôlent ces usagers d'Internet dans les autres pays du monde et pas seulement en France, car ces lois prolifèrent pendant tout ce mois d'avril là. On parlera d'une usine des Bouches-du-Rhône qui pollue la Méditerranée. On verra pourquoi. Et on finira par un reportage sur le miel du peuple. Le miel du peuple, c'est une soirée festive qui a eu lieu hier soir sur les pentes de la Croix-Rousse. Voilà. Mais tout de suite, on commence par parler un peu du 1er mai, puisqu'on est le 1er mai 2015. Alors, pourquoi on appelle le 1er mai la fête du travail ? Alors, il faut savoir que c'est une journée pleine de signification. Donc c'est pas seulement le début d'un week-end de 3 jours où des gens portent des brins de muguet, où la plupart des magasins sont fermés et où on voit les syndicats défiler. Non, c'est pas seulement ça. Le 1er mai, c'est un symbole historique très fort, une étape très importante de la lutte des travailleurs pour avoir davantage de droits, pour travailler dans des meilleures conditions en fait. Car le 1er mai 1886, c'est-à-dire il y a donc presque 130 années, les travailleurs américains organisent une manifestation gigantesque à Chicago et la mobilisation et la pression syndicale est telle que 200 000 travailleurs réussissent à obtenir la journée de travail de 8 heures. Donc c'est de là que c'est parti la revendication des 8 heures, donc ça il y a très longtemps. Et donc cette journée de mobilisation, ça a été un très grand pas et ça a incité les protestataires à ne pas lâcher le morceau finalement. Et grâce à une grève d'ampleur qui s'en est suivie, 340 000 autres travailleurs réussissent à faire céder leur employeur et à obtenir eux aussi la journée de 8 heures. Et de fil en aiguille, de combat en combat, de manif en grève, eh bien, de plus en plus de travailleurs ont réussi à faire baisser leur temps de travail. Et ce mouvement des travailleurs a inspiré beaucoup d'autres pays, notamment en Europe. Il a inspiré la Seconde Internationale, l'Internationale socialiste, qui se réunit en 1889, donc très peu d'années après. Et elle décide de faire du 1er mai la journée durant laquelle les travailleurs manifesteront tous les ans pour essayer d'obtenir cette journée de 8 heures. Et à partir de 1890, cette idée elle est suivie dans tous les pays d'Europe, avec des incidents bien sûr avec les forces de l'ordre. Hein, à cette époque-là, ils tiraient à balles réelles, je le rappelle, et notamment en France en 1891, dans la ville de Fourmies ou Fourmiès, je sais pas comment on prononce, c'est dans le Nord. La police elle tue 9 manifestants, donc quelque chose de choquant, mais pas de très surprenant pour l'époque et pour le pays. Donc voilà, ça c'était pour le point historique. Car il faut bien comprendre de quoi on parle quand on dit que le 1er mai est une fête, est le jour de la fête du travail. Moi, de mon point de vue, je pense qu'on devrait plutôt l'appeler le jour de la lutte des travailleurs ou la journée des travailleurs, à l'honneur des travailleurs, mais fête du travail, je sais pas. Enfin bref, en ce qui concerne Lyon, donc comme tous les ans, et malgré la pluie cette année, les syndicats ont organisé des défilés dans les rues. D'ailleurs, le récent syndicat anarchiste CNTSO, donc Comité National des Travailleurs Solidarité Ouvrière, qui est né de la fusion des deux collectifs, a d'ailleurs profité de cette journée pour fêter ses 2 ans d'existence. Et comme tous les ans, après la manifestation, Radio Canu a organisé un repas de quartier, place Satonnet, là juste à côté, pour une grosse bouffe entre Lyonnais, mais pas que, hein, pour tous ceux qui étaient à Lyon à ce moment-là. Et le punch coulait à flot. Notamment, ça on peut le dire. Et il nous en reste même encore quelques verres pour nous en studio, donc à venir partager si vous voulez, venez. Et, et bien sûr, c'est vrai qu'il y avait quand même moins de monde avec la pluie que les autres années, mais c'est pas grave, du coup il y a encore plus de rhum vu qu'il y avait moins de monde qui est venu. Et surtout, tout s'est déroulé dans une atmosphère très conviviale et très bon enfant sur la place Satonnet, comme tous les ans, on a installé les tables, etc. Et c'était vraiment sympa. Une chose est sûre, on va refaire ça sans hésitation dès l'année prochaine, quoi, 1er mai prochain. Voilà. Et puis, on n'est pas les seuls à faire des choses pour le 1er mai. Le Front National aussi fait des rassemblements le 1er mai. Ça ressemble à quoi, Raph?
Ben simplement, le FN nous a encore montré son visage aujourd'hui. Donc 1er mai, c'est son défilé annuel du parti d'extrême droite à Paris. Là, cette année, il y avait quand même 4000 sympathisants rassemblés. Ça devait être fort en émotion. Marine Le Pen a tenu tout son discours en appelant à stopper l'immigration et lutter contre le terrorisme. Et pour ça, elle a rappelé et appuyé ce qu'elle avait dit en 2012 suite aux tueries perpétrées par Mohamed Merah. Et je cite, elle a dit aujourd'hui du coup, j'avais demandé combien de Merah y a-t-il dans les bateaux, les avions qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés. Voilà, donc tout son discours s'est basé sur l'immigration et le terrorisme, mais c'est aussi un jour où des militantes féminines sont venues se mobiliser contre le FN. Et alors que Marine Le Pen entamait son discours patriotique, raciste et réactionnaire, comme toujours, elle a été interrompue par justement les 3 militantes FN qui déroulaient du haut d'un balcon des banderoles qui mélangeaient le logo du FN et du drapeau nazi. Et comme on peut le voir sur des vidéos, elles ont été rapidement et brutalement délogées par 5 gars, pas 5 gars de la police, mais 5 gars du service d'ordre du Front National. Qui sont repartis en brandissant leurs poings en signe de victoire face à la foule. Et ils ont aussi également, ces 5 gars, en quelque sorte permis au FN de ne pas déroger à sa règle. Sa règle qui est de refuser la participation de journalistes du Petit Journal dans ces rassemblements. Car justement, là, 3 journalistes du Petit Journal ont été agressés dans ce défilé par des militants, juste avant d'être virés rapidement par le service d'ordre du parti frontiste.
D'accord. Eh ben oui, encore une fois, c'était notre petite chronique FN qui vient toujours plus montrer le visage du FN. Et maintenant, on va parler donc de l'armée française.
Oui. Alors, je vais vous parler des allocations de 3,8 milliards pour l'armée. alors que la France est, comme on le sait, en période de rigueur budgétaire. Donc, à l'issue d'un conseil de défense crucial qui s'est tenu il y a 2 jours à l'Élysée, notre cher président a annoncé qu'il ajouterait plus de 3,8 milliards d'euros au budget de la défense actuel. Donc, celui-ci s'élève à 31,4 milliards d'euros en 2015. Donc, ce budget place la France comme l'une des premières puissances militaires en Europe avec la Grande-Bretagne. Cette augmentation sera effective pour la période donc de 2016 à 2019 et elle a été prise suite aux attentats qui ont visé la France en janvier. Donc Hollande s'est montré intransigeant afin de renforcer la cyberdéfense et les renseignements en France. Il a par ailleurs annoncé la pérennisation de l'opération antiterroriste intérieure désormais baptisée Sentinelle. Donc celle-ci se soldera par le maintien de la mobilisation de 7000 militaires contre 10000 jusqu'à présent. Donc actuellement, c'est 10000 soldats et ils étaient sollicités pour protéger les sites sensibles. Et tout ça pour un coût de, attention, 1 million d'euros par jour. Donc voilà, il serait donc ce plan va donc être maintenu à long terme avec 7000 hommes alloués en permanence à la sécurité nationale. Par ailleurs, le réservoir de soldats mobilisables sera lui augmenté, passant de 66 000 à 77 000. Et pour finir, alors que la loi de programmation militaire de 2014 à 2019, qui a été votée en 2013, prévoyait la suppression de près de 34 000 postes, 18 500 seront finalement préservés. Mais on peut se demander en cette période de rigueur budgétaire, cette dotation, elle passe pas très bien. Enfin, pour le rappeler, le déficit budgétaire de l'État, il atteint 85,6 milliards d'euros en 2014. Hollande a donc promis un plan de rigueur en France de plus de 50 milliards d'économies entre 2015 et 2017. Donc, pour préciser un petit peu, il y aura 21 milliards qui seront supprimés à la sécurité sociale. Les projets, c'est aussi que les collectivités territoriales seront amputées de 11 milliards et l'État, avec ses différents ministères, devront contribuer, eux, à hauteur de 18 milliards. Mais Hollande, lui, justifie cette dotation à l'armée par cette phrase que je cite « La sécurité, la protection, l'indépendance sont des principes qui ne se négocient pas ». Donc on comprend bien ici les priorités de notre président qui se veut parler au nom de la France. Dans les plans de rigueur prévus pour 2015, je le rappelle, l'éducation et la justice seront protégées, mais la culture et l'écologie, par exemple, seront sacrifiées. Donc pour donner quelques exemples, la baisse des dotations versées par l'État concernant la culture s'élève à 11 milliards pour les 3 années qui vont venir. Le budget de la culture affiche donc une baisse de 2% en 2014 et 4,3% en 2013. La santé en prend aussi un coup avec une économie de 730 millions d'euros pour les établissements de santé en 2015. L'écologie perd également une partie de ses moyens avec 515 postes qui seront supprimés et surtout une baisse de son budget de 3,4%, soit environ 400 millions d'euros. Donc on peut parler aussi de l'agriculture. Le budget du ministère de l'Agriculture devrait afficher en 2015 une baisse de 4%. Et donc ça représente 4,7 milliards d'euros. Donc si on peut faire une petite contrepartie, le ministère de l'Intérieur, lui, il voit ses crédits augmenter. Oui. Lui, il a déjà, son budget est déjà à hauteur de 44 millions d'euros. Et son budget dépasse, je me suis plantée, son budget dépasse désormais 15 milliards. Le ministère de...
Vas-y, y a pas de soucis. Donc son budget dépasse 15 milliards au ministre.
Ouais, voilà. Et puis les effectifs de police et de gendarmerie pourront notamment voir 405 nouveaux membres rejoindre les rangs des forces de sécurité. Donc des petites informations sur les prévisions qui sont à venir. Pas très joyeux.
Et non, récession, c'est ce qu'on voit, quoi. C'est l'impression que ça donne, quoi.
Ouais.
Bah justement, moi je vais parler aussi d'une autre loi du gouvernement. On continue à parler de notre cher gouvernement, avec lequel on est d'accord tout le temps et pour tout, bien sûr. Donc une nouvelle loi dans le monde du travail, j'ai choisi de l'appeler Macron 2, le retour. parce qu'après la loi Macron, donc qui impacte déjà gravement les droits et les conditions des travailleurs... Donc on le sait, hein, au niveau que ce soit au niveau des prud'hommes, beaucoup plus difficile à saisir, les droits des syndicats qui baissent, le travail le dimanche, tout ça. Et ben là, le ministre du Travail vient de proposer une nouvelle loi pour réduire les contraintes des employeurs, pas des travailleurs, des employeurs. Et c'est mardi 22 avril qu'elle a été présentée en Conseil des ministres. Alors, que prévoit cette loi ? Alors, premièrement, elle réduit le rôle des CHST, donc c'est les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des comités qui assurent la protection et la santé des travailleurs, en fait. Et donc, ces comités pourraient être fusionnés avec les délégués du personnel, d'une part, et le comité d'entreprise, d'autre part. Donc, du coup, ces trois instances donneraient une délégation unique, voilà. Donc une seule délégation pour tout, pour toutes ces instances d'entreprise, ce qui signifie, ben, dans les grandes lignes, qu'il y aurait beaucoup moins de délégués du personnel, puisqu'ils vont fusionner, donc ils seront beaucoup moins nombreux, et les délégués restants auront beaucoup plus de missions à gérer. Et donc avec cette loi, concrètement, certaines entreprises de plus de 100 salariés pourraient perdre jusqu'à 70 heures de délégation. Et les petites entreprises, jusqu'à 30 heures de délégation. Donc des délégations qui permettent aux travailleurs, ben voilà, on le voit, hein, la protection, la protection de leurs conditions d'hygiène, de sécurité, conditions de travail, mais aussi tout ce qui est comité d'entreprise, ben, pour se réunir, pour parler des problèmes au sein de l'entreprise, etc. Donc des services très importants au sein de l'entreprise. Et de plus, la loi, elle n'est pas très cohérente finalement, car on peut se demander que vont faire les médecins et les inspecteurs du travail qui sont à la base dans les CHST et qui là vont être aussi du coup au sein des comités d'entreprise dans lesquels ils auront pas leur mot à dire parce que ça ne les concerne pas vraiment quoi. Et de plus, la loi, elle met à l'écart dans un second temps, en plus de cette fusion, elle met à l'écart les syndicats. Encore plus, et elle étend le droit des employeurs à négocier directement avec les délégués du personnel en l'absence de délégués syndicaux. Avant, c'est ça, c'était autorisé que dans, enfin pour l'instant, c'est autorisé que dans les entreprises de plus de 200 salariés. Et là, pour toutes les entreprises, les personnes désignées, les délégués du personnel, elles pourront mener toutes les négociations, donc y compris celles sur les salaires, celles sur la parité et sur la pénibilité. Sans qu'il y ait besoin de délégués syndicaux à leur côté. Donc voilà, c'est cette loi qui a été proposée très récemment et qui, on espère, ne passera pas. Ne passera pas. Bon, on écoute un peu de reggae et puis on revient après. Je vais vous passer la Scafia d'un petit groupe pas connu. C'est quatre étudiants, je sais plus trop d'où, mais c'est super bon. C'est du reggae ska funk et le groupe ça s'appelle Chlorat. Donc voilà, la Scafia de Chlorat.
Et les gars, dans la vie, il y a des gens qui rient.
Quoi ? Il y a des gens bâtards. We'll be right back.
que Jean Bâtard s'enfuit au loin.
Ah, ils sont là.
Avec sa femme, son os et puis son chien. C'est quoi là? On fait la Java, la fiesta, en espérant que jamais il reviendra.
Voilà, c'était la Scafia de Chlorate. J'adore vraiment ce groupe, ça groove, ça funk, ça reggaet. Non, ça se dit pas, ça reggaet. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est toujours le Canu Info du vendredi. Et maintenant, on va vous parler de la loi sur le renseignement dont vous avez sûrement entendu parler. Mais là, on va un petit peu la décortiquer.
Ouais. On va revenir là-dessus parce que comme certains le savent peut-être, ce projet de loi relatif au renseignement là, il va être voté solennellement mardi 5 mai là. Donc projet qui met en danger les libertés fondamentales. Du coup, je propose déjà de revenir à ce qui s'en joue. Tout d'abord, les deux articles qu'il contient permettent une interception de l'ensemble des données de tous les citoyens français en temps réel sur Internet. Donc le but étant de faire tourner dessus des outils de détection des comportements suspects. Je vais vous donner déjà quelques-unes des mesures plus précises et alarmantes de ce projet. Donc, en dehors de toute enquête judiciaire, les agents de services de renseignement pourront désormais mettre sur écoute des véhicules, des habitations, des bureaux, y placer des caméras, poser des balises de géolocalisation, consulter le contenu des ordinateurs et des messageries sur Internet. De nouveaux moyens d'investigation vont être aussi mis en œuvre, donc droit à l'utilisation des IMSCATCHER, c'est des appareils qui permettent de capter toutes les communications téléphoniques dans un périmètre donné. Mais ce projet de loi, il va aussi donner la possibilité d'intercepter en temps réel les données informatiques, y compris celles concernant les conversations et les messages instantanés. Donc le gouvernement veut également pouvoir contraindre les entreprises gérant les réseaux sociaux et les moteurs de recherche sur Internet à livrer certaines données de leurs clients et clientes. Et les boîtes noires aussi, là, les nouveaux dispositifs informatiques seront installés par les services du renseignement chez les opérateurs de communication électronique et fournisseurs de services afin de détecter par un traitement automatique une succession suspecte de données de connexion. Donc le projet de loi, il était prévu pour être une loi d'encadrement du renseignement. En réalité, sur bien des points, le contrôle est inexistant. Non seulement la commission de contrôle n'a qu'un avis consultatif, mais en plus, le recours effectif des citoyens contre le service de renseignement sont inapplicables et aucune sanction n'est prévue pour les agents qui abuseraient de leur pouvoir. Donc, en résumé, aucun contre-pouvoir fort n'est prévu pour protéger les citoyens et le gouvernement a décidé de légaliser, sans argument et sans contrôle, les pratiques illégales des services de renseignement. Bah alors, je vais aussi préciser d'où vient ce projet à la base et pourquoi il sort maintenant, pas avant. Pourquoi aussi rapidement aussi? J'ai envie de dire pas folle la guêpe, parce que c'est un projet qui fut mûrement réfléchi par les politiques. Ils se sont servis du contexte récent des attentats de janvier pour le faire approuver par l'opinion. Si l'on en croit un sondage publié le 13 avril, au premier jour de l'examen du texte, 6 Français sur 10 sont favorables à une limitation des libertés individuelles s'il s'agit de lutte contre le terrorisme. Et ce projet était dans les cartons depuis au moins un an, voire deux. On attendait ce projet de loi, éventuellement en 2015, mais sans certitude et plus tard dans l'année. Mais pourtant, c'est vrai qu'il faut pas se leurrer, car l'objet de cette loi n'est pas la lutte contre le terrorisme, mais clairement le renseignement en général, et notamment le renseignement intérieur. Comme le précise le texte, les finalités du renseignement intérieur sont bien plus larges que le terrorisme. On y trouve également la défense des intérêts économiques et scientifiques de la France, la lutte contre les violences collectives pouvant troubler l'ordre public, la criminalité, la délinquance organisée. C'est que des termes que je cite là du texte et encore bien d'autres. Hein. Ces nombreuses finalités du coup étendent très largement le champ de la surveillance parce qu'elles augmentent le nombre de raisons et de périmètres permettant qu'on puisse se retrouver surveillé. Donc opposer systématiquement le terrorisme à l'opposition à cette loi n'est pas valable. Et c'est pas non plus un projet de loi à assimiler par exemple à des services comme Google ou Facebook qui on sait déjà prennent toutes nos données. En fait, comme je viens de le dire, Facebook ou Google restent seulement des services. Autrement dit, si je veux pas l'utiliser, je ne l'utilise pas. J'ai le choix. Mais en revanche, je n'ai pas le choix de ne pas être espionné par mon gouvernement. Donc un service de renseignement, lui, il peut collecter l'ensemble de nos données personnelles, de notre réseau de relations, de nos activités bancaires, nos données de santé, et encore bien d'autres. Donc c'est bien plus intrusif. Et par rapport aussi à la mobilisation face à ce projet, la difficulté est de se mobiliser contre quelque chose qui n'existe pas matériellement. C'est beaucoup plus compliqué. Se révolter contre des pratiques occultes des services de renseignement sans preuve, c'est quasiment impossible. Alors j'ai bien envie de finir cet article sur la conclusion que ce projet s'inscrit clairement dans la continuité des lois sécuritaires dont s'arme l'État pour affermir son pouvoir, quelles que soient les tendances politiques des gouvernants et gouvernantes. En effet, l'alliance de circonstances entre la droite dure et la gauche du gouvernement montre qu'il ne s'agit pas ici de porter une vraie politique de renseignement qui pourrait définir des grandes lignes, des rapports entre une société, ses citoyens et ses services, mais il s'agit plutôt de légaliser les pratiques existantes et de faire en sorte que le pouvoir politique puisse garder la haute main sur les activités des services sans trop de contrôle judiciaire ou citoyen, même sans contrôle du tout. Donc voilà, c'était mon point sur la loi, sur le renseignement.
D'accord. Et du coup, moi, je voulais aussi intervenir là-dessus, pas exactement sur cette loi, mais sur d'autres lois qui sont mises en place partout dans le monde, en fait, qui ressemblent à cette loi-là sur le renseignement en France. Là, depuis le début du mois d'avril, il y en a eu plein, des lois liberticides qui, en fait, contrôlent l'usage d'Internet chez les individus. Depuis le début du mois d'avril, elle prolifère même, on pourrait dire. Alors par exemple, au Pakistan, une loi est débattue à l'Assemblée nationale en ce moment pour élargir la définition du cyberdélit. Alors à présent, il suffira de critiquer le régime politique du Pakistan sur Internet pour devenir criminel. Et ce sera le même tarif pour tout propos qui porte atteinte à la religion, à la sécurité de l'État, à l'ordre public ou même encore aux bonnes mœurs. Et avec cette loi, les fournisseurs Internet pourront échanger davantage de données avec les gouvernements des autres pays. En Égypte, c'est à peu près le même type de loi qui a été pondue là, par le gouvernement. Sauf que là, cette loi, elle a déjà été votée, elle est déjà appliquée. Elle est même pire quand même, on peut dire, parce qu'elle condamne à la réclusion à perpétuité toutes les personnes accusées de blasphème ou de crimes électroniques. Et donc les critères pour les crimes électroniques ou les blasphèmes sont les mêmes que pour les cyberdélits au Pakistan. C'est les mêmes types de critères. Et enfin, on peut parler de la Tanzanie. C'est encore le même genre de loi qui a été votée le 1er avril, donc vraiment au tout début du mois. La petite différence étant qu'ils précisent pas vraiment ce qui est interdit. Ils disent juste, voilà, ce qui est légal, c'est la publication d'informations trompeuses et fausses. Mais c'est un terme très large qui finalement peut tout englober, donc qui peut tout interdire, ou presque, tant que le gouvernement a envie de dire que c'est interdit et a envie d'arrêter telle ou telle personne. Par contre, on ne connaît pas non plus les peines qui sont prévues en cas de non-respect de la loi. Donc c'est vraiment... Il y a une loi qui est posée, et puis le gouvernement compose comme il en a envie avec ça. Et fait sa petite tambouille de répression. Donc voilà, c'était un petit topo sur les lois liberticides qui sont votées en ce moment dans le monde et pas seulement en France. Et comme conclusion, on peut donc bien dire que Internet est un très bon outil pour les citoyens. Il peut nous permettre de nous informer plus facilement, de nous organiser, de communiquer. Et par exemple, pour pouvoir combattre le pouvoir en place ou au moins s'en émanciper. Mais c'est aussi, il faut pas l'oublier, et ce genre de loi nous le rappelle, que c'est aussi une arme de l'État, qu'elle est très efficace pour nous surveiller, pour nous faire devenir des criminels très facilement, alors qu'on est juste derrière un ordinateur à juste exprimer son avis. Bah ça peut aller très 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 vite avec ça, à ne pas oublier. Voilà, je propose qu'on fasse une deuxième petite pause musicale.
Allez,
ou sinon on la fait après, c'est comme tu veux. Oriane, c'est toi qui décides, vu que c'est toi qui fais la prochaine. Es-tu prête maintenant ou on fait la musique
Je suis prête, mais si les auditeurs ont envie d'entendre
un petit peu de son.
Quand tu peux répéter, je crois que ton micro était coupé, pardon.
D'accord, d'accord. Et ben, je disais que j'étais prête, mais que si les auditeurs avaient envie d'entendre un petit peu de son, je n'y vois pas d'inconvénient. Donc voilà.
Bon, en avant la musique.
Allez,
mais ce coup-ci, on va passer. C'est bon, ça. C'est le titre de la musique et c'est vraiment bon. C'est encore Chlorate, d'ailleurs. Voilà, je vous fais découvrir Chlorate aujourd'hui, ce groupe que j'apprécie tout particulièrement. C'était encore Chlorate avec c'est bon ça, c'était vraiment bon je trouve. Et du coup on continue le Canu Info toujours, il nous reste 20 minutes et on va parler maintenant d'une usine des Bouches-du-Rhône qui pollue la Méditerranée, c'est ça Auriane ?
Ouais, c'est bien ça. Et donc voilà, on va parler de cette usine qui rejette des boues rouges et qui appartient à la société Alteo. Et donc qui se situe dans les Bouches-du-Rhône. Alors donc au nom de la préservation de l'emploi, l'usine d'alumine des Bouches-du-Rhône a bénéficié d'un très long moratoire pour mettre fin au rejet des boues rouges dans la Méditerranée. 20 ans plus tard, la pollution perdure et l'emploi n'a jamais paru autant menacé, faute de solutions durables. Donc comme je viens de le dire aujourd'hui, l'importance de l'enjeu sanitaire est à son comble. Alors, arsenic, uranium-238, thorium-232, mercure, cadmium, titane, soude, plomb, chrome, vanadium, nickel, voilà quelques composants des boues rouges dont je parlais, qui sont déversés chaque jour par centaines de tonnes dans la mer Méditerranée. Caca. Une canalisation construite en 1966 rejette ses déchets à 7 km des côtes, au cœur d'un site remarquable par sa biodiversité en plus, devenu en avril 2012 le parc national des Calanques. Donc en un demi-siècle, près de 32 millions de tonnes ont été répandues à 250 mètres de profondeur. Donc elles dispersent leurs éléments toxiques du golfe de Fos à la rade de Toulon, s'ajoutant bien sûr aux eaux polluées du Rhône. Donc pour la petite histoire, la bauxite, le minerai d'aluminium, fut découverte au Baume de Provence en 1821. Le procédé Bayer, mis au point à Gardenne à partir de 1893, consiste à dissoudre l'alumine qu'elle contient avec de la soude, ce qui génère une grande quantité de résidus toxiques à forte coloration rouge. Cette usine d'alumine appartient aujourd'hui à la société Alteo, comme je l'ai dit tout à l'heure, premier producteur mondial d'alumine de spécialité. Donc cette société exporte chaque jour plus de 1200 tonnes de produits finis, en particulier pour la confection de vos petits écrans plats à cristaux liquides ou de tablettes tactiles. Sur le plan environnemental, les dégâts sont catastrophiques. Donc de Marseille à Cassis, les marins remontent des filets teintés de rouge et les poissons sont chargés en métaux lourds. Certaines espèces ont même totalement disparu. Ce crime a pourtant été dénoncé dès 1963, au moment du projet de canalisation, par le célèbre biologiste Alain Bombard. Les océanographes s'inquiètent aussi de l'exposition radiologique. Donc pour eux, la radioactivité naturelle de la Méditerranée est de 12 becquerels par litre, et celle des boues à la sortie du tuyau dépasse les 750 becquerels par litre. C'est donc un risque majeur pour la faune marine et pour la chaîne alimentaire. Et le pire, c'est que Alteo conteste cette analyse. Certaines études financées par l'entreprise elle-même ont été effectuées afin de conclure à une absence d'impact notable des résidus sur les animaux aquatiques. Donc ces batailles d'experts mettent en évidence la difficulté de faire valoir l'intérêt public en matière environnementale et de santé contre ces entreprises qui ont un pouvoir surdimensionné. Voilà.
Toujours des infos comme ça.
Ouais.
C'est trop triste. Du coup, je propose que, qu'après une info aussi triste que ça, on passe à quelque chose de super joyeux.
Grave.
On va parler du miel du peuple. Le miel du peuple qui a pollinisé toute la place Colbert sur les pentes de la Croix-Rousse hier. Le miel du peuple, qu'était-ce, me direz-vous? C'était une journée folle, avec des spectacles, un village associatif et des concerts toute la soirée de 18h à minuit. C'était un événement gratuit. Ouvert à tous, qui a réuni plusieurs centaines de personnes. Il a été organisé par l'association La Ruche. Donc La Ruche, c'est une association qui veut construire un lieu de rencontre et de nouvelles expérimentations sur le quartier Croix-Rousse, sur les pentes de la Croix-Rousse. Et en fait, le collectif de bénévoles s'est installé au 33 rue du Bon Pasteur, dans le premier arrondissement, dans une vieille bâtisse qu'ils ont rénovée et redécorée. Justement, si je vous donne l'adresse exacte, c'est pour que vous vous y rendiez, parce que c'est ouvert à tous. Et c'est au 33 rue du Bon Pasteur dans le premier, donc comme je disais, du Bon Pasteur, comme un pasteur qui est bon, un bon, qui est gentil, enfin, voilà. Bon. Bref, donc du coup ils sont installés, c'était en février 2015. Ils ont même commencé à aménager un petit jardin partagé, le jardin des Pandars. Mais le problème, c'est que l'association, elle est à présent menacée d'expulsion. Et cela risque d'être pour très bientôt, en mai apparemment. Mais c'est sans compter le soutien des Lyonnais, qui étaient notamment très nombreux hier à la soirée de La Ruche. Et moi aussi, j'y étais d'ailleurs, hier soir.
Et nous aussi, d'ailleurs.
Et aussi, ouais. Vous aussi, on était tous, il y avait presque tout Lyon là-bas en fait. Et on va essayer de, si vous avez loupé ça, c'est dommage. Mais heureusement, Radio Canu est là pour vous. Et on va essayer de vous donner un petit aperçu de ce que c'était cette soirée à travers un reportage qu'on écoute tout de suite. C'est pas trop ce que je cherchais en fait. Bon, c'est pas grave, on réessaye ou on met de la musique classique?
on fait un vote
démocratique ou...
Moi je vote musique classique.
C'est trop bien mon reportage, j'ai mis trop de temps à le monter, Oriane, tu peux pas dire ça. Bon,
non,
bref,
vas-y, Pierrot.
On l'écoute.
Allez, on vous la refait, mais cette fois, méchant que la vite.
Bon, alors
voilà, là je suis à la soirée de la ruche et je dois dire que c'est plutôt cool. Il y a de la bonne ambiance. On peut dire que la foule a vraiment investi la place là. D'ailleurs, on va aller à la rencontre des gens, on va savoir un petit peu ce qu'ils pensent de la soirée organisée par l'association. Voilà. Bonjour, c'est la radio. Ah, vous n'avez pas la radio par ici. Bonjour, c'est Radio Canu, ça marche mieux.
Salut Radio Canu.
Je voulais savoir si vous aimiez la soirée et pourquoi vous étiez là ce soir. Comment vous avez entendu parler de tout ça aussi?
J'ai eu le lien par Facebook et voilà, ça m'a touché, donc j'ai voulu découvrir l'association, tout simplement.
Ça t'a touché, ça veut dire?
Eh ben, c'est bien d'avoir un lieu comme ça où on a des échanges culturels, des partages d'art. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et je ne suis pas déçu, hein, c'est très sympa.
Ça t'embêterait que l'association soit virée d'ici?
Bien sûr, non, il faut la sauvegarder, c'est excellent, vraiment. Il faut tellement de choses et c'est un projet de quartier, il faut maintenir, il a beaucoup de succès, donc voilà. Je ne comprends pas que la ville de Lyon ne finance pas plus ce genre d'association.
Je suis Dja, voilà, et donc voilà, je suis un des coordinateurs en fait de l'événement, de ce soir du miel du peuple, voilà, avec quatre autres personnes. Et en fait, une trentaine, quarantaine de bénévoles, et voilà, et le public est là ce soir.
Et c'était justement, c'est comment la soirée ce soir? Ça s'est bien passé ou pas?
Oui, ça s'est super bien passé. On peut reconnaître que, en fait, il y a beaucoup de gens, quelque part, qui sont touchés, en fait, par notre combat. À la ruche, voilà, et aussi à côté, au Pandard, en fait. Essayer d'obtenir, quelque part, un lieu public. Un lieu ouvert à la communauté, au quartier, en fait. Là, dépend de la Croix-Rousse. Voilà, où ça soit pas un jardin public, justement. Où ça soit des gens qui sont autonomes et qui viennent là pour apprendre à jardiner et se reconnecter quelque part à la terre. Voilà. Et la maison de quartier aussi, c'est quelque part... voilà, tout est anesthésié ici, dans cette ville. On fait du goudron. On répond pas réellement aux attentes, en fait, des gens, des quartiers ici à Lyon, quoi, sur les pentes de la Croix-Rousse. Voilà, ça devient un quartier bourgeois. Et je pense qu'il faut pas... voilà, essayer de vendre aussi. Voilà, la Croix-Rousse n'est pas à vendre. Ça peut pas aussi devenir quelque chose comme on voit l'immeuble qui est en face de moi, tu vois, à côté du crayon. Voilà, on essaye d'avoir aussi. On a besoin de ça en temps de crise, de se réunir, d'avoir un lien social.
Et là, souvent, t'as l'impression que les gens étaient réunis du coup.
Ben, on a quand même eu 800 personnes, quoi. Peut-être même un peu plus. On a eu beaucoup de pétitions, les gens sont informés maintenant. De la situation, on voit là surtout au stand de la ruche, on a obtenu énormément de signatures. Et même pendant le concert, les artistes qui sont venus venus bénévolement. Tout le monde est bénévole en fait ce soir, quoi, parce que c'est vraiment pour soutenir un projet qui est pas capitaliste. Voilà. Déjà, ils nous ont fait une expulsion des pandards, donc il y a les autorités qui sont venues mettre un grillage entre nous, nos légumes et nos fleurs. Donc c'est même stupide. On nous sépare en fait de la nature quelque part, tu vois ce que je veux dire. Enfin, on a besoin vraiment de se reconnecter aussi à quelque chose de citoyenneté. Je peux parler aussi de solidarité locale, quoi, en cette période qui est assez... où il y a une pression de la société aussi en période de crise. Et les gens ont besoin de ça, de se retrouver à des endroits, que ce soit des retraités, que ce soit... des couples avec des enfants qui viennent au jardin, qui viennent à la ruche, voilà, pour avoir des échanges, pour partager aussi des connaissances, des compétences, sous la forme d'échanges ou de troc, et que ce soit aussi du soutien scolaire, qu'ils ont vraiment besoin en fait. Donc voilà, et nous on est appelé aussi à un dialogue avec la mairie centrale, qu'on n'a jamais eu, ça fait un an qu'on demande un dialogue. Et voilà, donc on a un avis d'expulsion, donc voilà, on sait pas comment on va faire. Mais peut-être que ça sera transformé en parking, ou alors voilà, de la construction, quoi, on va dire.
Un mot
monte sur la ruche, impossible. Non. Un monte sur la ruche, un monte sur les. Il n'y a plus de chaîne alimentaire.
Mais
s'il n'y a plus de ruche, il n'y a plus de chaîne alimentaire, mon gars.
Mais oh, c'est la base, c'est la base. En vrai, si les guêpes ou les abeilles, elles disparaissent, en 2 ans, en gros, notre écosystème, il est foutu.
A bag full of stories for the kids. He's got no guns, just a water pistol.
It's
un mec qui se fait porter, il fait la vague et tout. Ouais, non, c'est une musique qui est entraînante, qui franchement c'est enfin le son est bon, voilà, tout est là en fait. C'est festif. Ouais, je trouve que c'est bien d'animer les quartiers comme ça, c'est des bonnes initiatives. Ça permet de rassembler au sein d'endroits où parfois c'est pas la même population qui habite que celle qui s'y rassemble lors de ces événements et tout ça, et je trouve que c'est super sympa. Ouais, je fais plein de rencontres, je sais que justement montrer que ce genre d'événement a une incidence, que ça mobilise du monde, tout ça, ça me paraît important. Enfin voilà, on sait tous à ce jour comment notamment les jeunes ont du mal à se mobiliser politiquement parlant par exemple. Moi je pense que ce genre de choses, ça veut pas rien dire sur qui on est, et voilà, donc
Et oui, c'est toujours le Canu Info en direct. Il nous reste moins de 10 minutes ensemble. Et on va pas le faire sur du piano, malheureusement, parce que j'ai peur que sinon vous compreniez moins bien les informations en musique. Et puis on a déjà eu pas mal de musique là. Donc voilà, c'était le reportage sur le miel du peuple. J'ai essayé de mettre des bribes de la soirée pour que vous vous rendiez un peu compte de l'ambiance. Et maintenant, si vous voulez faire des événements de ce genre, eh bien il faut vous informer. Et bah Radio Canu est là pour ça aussi. On a un agenda alternatif et on va vous l'exposer tout de suite.
Bah alors c'est parti. Alors pour commencer, demain il y a un rassemblement contre la loi sur le renseignement à 15h à Lyon, bah place des Terreaux. Donc on vous recommande tous d'y aller. Et alors sinon, il y a aussi demain une manif contre le Center Park là. C'est de 11h à 18h. Alors, à l'occasion du 1er mai et de cette journée internationale de revendication des travailleurs, la coordination des groupes en lutte contre le Center Park de Roibon propose le lendemain, donc le 2 mai, une journée de manifestation contre ce projet durant laquelle la question de l'emploi sera posée. Il sera question bien sûr des conditions déplorables auxquelles les employés des autres Center Parks sont confrontés au quotidien. Et les occupants de la ZAD, quant à eux, présenteront leur activité qui, contrairement à la plupart des emplois, répond directement à leurs besoins en dehors de toute considération marchande. Et ensuite, après les manifestations des pro-Center Park, qui ont plombé le mouvement d'opposition, cette journée paraît essentielle pour renverser le rapport de force et démontrer la détermination contre ce projet et le monde que ce projet a suscité. Et suscite encore des opposants au Center Park de Poligny nous ont déjà annoncé leur présence à cette marche des possibles. C'est le nom qui lui a été donné à Grenoble le 2 mai 2015 au parc Hoche. Alors pour le petit programme, à 11h il y a un rassemblement au square de Hoche. 11h30 départ en déambulation et retour sur la place vers 13h environ. 13h-13h30 pique-nique sur place avec des plats à partager. 14h début du forum et discussion. Essentiellement sur les emplois. Et au moment des discussions, il y aura aussi divers ateliers qui reflèteront ce qui se passe dans la forêt et à ses alentours. Donc nous vous attendons nombreux pour cette belle journée qui s'annonce et qui se situera à Grenoble.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le lundi 4 mai aura lieu une nouvelle permanence juridique de soutien aux sans-papiers qui ouvre à partir du lundi qui a ouvert à partir du lundi 20 avril et qui sera ouvert tous les lundis de 18h30 à 21h. C'est à 91 rue Montesquieu dans le 7e arrondissement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons on a des petits détails quand même sur cette nouvelle permanence. Ceux qui assurent cette permanence ne sont pas des juristes, mais avec de l'expérience qu'ils ont acquise au fil des années de lutte auprès des sans-papiers, ils souhaitent mettre en place cette permanence pour faire face aux démarches compliquées, en essayant de sortir des rapports habituels de domination, qu'on connaît tous. Ils sont contre le néocolonialisme, contre toutes les frontières, pour la liberté totale de circulation et d'installation de tous et toutes. Mais ils sont bien conscients qu'il est difficile aujourd'hui de vivre en France sans avoir des papiers en règle. Alors en attendant de faire la révolution et qu'il n'y ait plus besoin de papiers pour personne, ils feront leur possible pour en obtenir à ceux et à celles qui n'en ont pas. Cette permanence, comme je l'ai dit, sera accessible à tous et à toutes, dans la mesure des capacités d'accueil et de gestion de dossiers évidemment.
On va continuer l'agenda donc avec le festival Révolution R. C'est la deuxième édition qui se tiendra du 12 au 16 mai à Lyon. Donc ce festival Révolution R, c'est le premier festival de France qui est entièrement dédié aux cultures urbaines arabes. Donc pour sa deuxième édition, il s'installe à Grenoble et à Lyon et propose projections de films, expos, photos, ateliers, débats, concerts et même une résidence avec certaines des meilleurs DJ et DJettes du monde arabe. Donc pour donner un petit peu l'eau à la bouche, ils se sont invités cette année Deb qui vient d'Égypte, Malika du Liban, Diaz qui vient d'Algérie, Oslob, un groupe qui vient de Palestine et du Liban, Miss Inès de Tunisie, DJ Sotusura de Palestine et Refugees of Rap qui vient de Syrie. Donc comme je disais, l'épisode lyonnais du festival se déroulera du 12 au 16 mai et comprendra une projection de court-métrage et un spectacle de breakdance à l'espace 6 MJC le mardi 12. Le mercredi 13, une projection de graffiti baladi en présence des réalisatrices à la Maison des Passages. Un concert parcours sur les pentes de la Croix-Rousse le jeudi 14. Un freestyle à l'antenne de Radio Canu chez Lézard le vendredi 15. Et un concert show exclusif à la fin de clôture le samedi 16 au Croiseur Seine 7. C'est au métro Jean Jaurès. Donc pour plus d'infos et pour un programme détaillé, vous pouvez vous rendre sur le site www.revolutionr.com ou sur leur page Facebook dédiée au festival.
Voilà, et pour finir, on vous parle de la cantine solidaire du CSAO, le Haraga. C'est une cantine qui propose des repas à prix libre tous les samedis. Et les bénéfices sont en soutien à des luttes, à diverses luttes définies chaque semaine avant le repas. Donc voilà, donc si vous voulez vous y rendre, c'est à partir de midi jusqu'à 15h. Le prix est libre.